Bonjour tout le monde, Emmanuelle Robitaille avec vous pour la prochaine heure et je ne suis pas seule. Monsieur Blondin, de retour au Québec, bonjour.
Madame Robitaille, je vous salue.
Très heureuse de vous retrouver cette semaine. On se vous voit, on est tellement plus habitués de se voir. On se vous voit.
Oh. Ça nous donne comme de l'importance.
Trouves-tu? En tout cas, on va parler de nouvelles qui sont importantes et qui sont belles et qui sont différentes également tout au cours de la prochaine heure. Et on va recevoir en studio également l'initiateur du projet One Guy, One Goal, One Life et le conférencier Céric. Bienvenue à Aime la vie. On dirait que t'es parti comme... T'es parti 3 semaines, mais on dirait que t'es parti pour toute la vie. T'sais, à chaque semaine, je suis comme très heureuse de te retrouver, mon cher Robert.
Bon, ça fait plaisir de revenir des fois, surtout cette fois-ci.
Ouais. Ouais, c'est ça. On a parlé quand même qu'il y avait eu les chutes, les perroquets, mais il y avait eu d'autres types de chutes qui étaient moins positives, disons-le. Mais on envoie encore une fois une pensée parce que ça continue, je crois.
Ah, oh, c'est loin d'être réglé, ça. Ce n'est que le début de la violence au Nicaragua.
Minute de silence. Parce que sincèrement, je... Il n'y a pas de mots, mais j'espère qu'en tant qu'humain, on va être touché suffisamment pour que nos violences quotidiennes, et moi je ramène ça à nos violences quotidiennes, ben qu'on les gère mieux pour que ce genre d'événement-là plus gros cesse.
Ça va être ça ma peut parole. Pas cesser. Ça peut pas cesser parce que ce qui se passe au Nicaragua, la colère des gens est parfaitement justifiée. Là où oui. Il y a de la violence qui est non justifiée, c'est que dans la manifestation contre le mouvement sandiniste, contre Daniel Ortega, dans ce mouvement-là se glissent des voyous qui, eux, font des choses vraiment
parce qu'on
mauvaises,
s'entend que c'est civil okay? également, oui, c'est ça.
Et Daniel Ortega, au lieu de faire les coups durs par l'armée, a armé une milice de gens qui sont favorables à son règne parce qu'ils en bénéficient en tant que fonctionnaires pour tirer sur les autres. Mais que la population doive adopter, si on veut, la violence, là où le peuple a été floué par cet homme-là, je pense que c'est normal. Il y a des fois qu'il faut descendre dans la rue, il faut s'exprimer. C'est ce qu'ils font exactement. Alors, on ne peut pas le reprocher ça. On peut reprocher aux hordes de brigands d'en profiter pour voler, tuer, etc. Ça, c'est malheureusement, c'est le cas. Mais ça arrive ici aussi. On a des manifestations, puis tu as une couple de 6 ou 7 ou 11 blousons noirs masqués qui vont sur la rue Sainte-Catherine défaire des vitrines, etc. C'est la même chose là-bas, tout simplement.
Bien, effectivement, puis je t'entends et je pense qu'à un moment donné, il faut se lever. On a déjà parlé ensemble de révolution également. Des fois, c'est nécessaire. Quand je parle de violence au quotidien, je pense également à la violence de toutes sortes et en toutes formes. Et il y a eu violence. Il y a eu violence sur les droits. Il y a eu violence sur le... Tu comprends, tu sais, ces violences-là, à quoi ils répondent, c'est une autre forme de violence. Et je souhaite qu'à un moment donné, l'humain devienne assez bon pour qu'on ait plus ces formes de violence-là à l'un ou à l'autre. Parce qu'il y a réponse à quelque chose qui est absolument néfaste, tu l'as nommé. Mais à quelque part, à un moment donné, quand on arrête de faire violence à notre prochain, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en parole, en geste, en regard, ça ne sera plus nécessaire.
Ou en possédant 100 fois plus
exactement.
Que le voisin sans
exactement.
Lui en céder la moindre partie. Ça, c'est une violence aussi.
C'est incroyable. C'est du vol. C'est de regarder quelqu'un crever de faim à côté de toi puis rien faire.
Exact.
Parce que la violence, elle n'est pas que dans l'acte. Elle est dans le non-acte également. Des fois, ne pas agir... On a déjà parlé de mensonges ensemble. On a déjà parlé de mensonges par omission. Tu te rappelles, Robert? Juste pour vous mettre en contexte. On parlait de mensonges dans un aspect un peu plus philosophique. Et moi, je disais, je suis très pro-transparence. Tu avais un point de vue qui parlait aussi que parfois, le mensonge peut servir. On parlait de petits mensonges blancs, ces petits mensonges-là qu'on met un peu partout. Et mensonge par omission, d'omettre quelque chose, d'omettre de dire quelque chose à quelqu'un, par peur de lui faire du mal, pour lui éviter qu'est-ce qu'on veut pas finalement se faire vivre à nous, finalement se faire vivre à nous-mêmes. Mais est-ce que c'est moins un mensonge? Non, mensonge par omission, ça le dit. Ben, c'est pas parce qu'on n'agit pas en violence, c'est pas parce qu'on n'agit pas qu'on est moins violent. Quand on n'arrête pas quelque chose, que ce soit de la discrimination, que ce soit de l'intimidation, que ce soit de la manipulation, que ce soit pour nos aînés, nos jeunes, sur les homosexuels, regarde, je pourrais pas te dire que je ne suis pas en accord. Ces formes de violence-là répondent à une autre forme de violence, simplement que dans notre description de la violence, elle est confinée à une description qui est réductrice et c'est pas vrai que c'est ça. Donc, on répond à la violence, et oui, elle peut cesser quand l'autre type de violence qu'on pointe moins facilement va cesser également.
Alléluia.
On est à Aime la vie, puis on en a parlé ensemble pendant que la musique jouait, mais aimer la vie, c'est pas non plus faire l'autruche. Et je suis contente qu'on en ait parlé à cœur ouvert et à micro ouvert également. Et ben, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais moi, cette semaine, je vais vous parler de sommeil. Mais le sommeil, c'est le fun que ça soit la nuit et non pas sur les sujets sur lesquels on peut faire une différence au quotidien, en commençant par nous-mêmes, parce que je vais le rementionner. Et j'ai voulu cette semaine... Je n'ai pas voulu, en fait, c'est venu à moi et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. On parle souvent d'à quel point les personnes qui vivent, je ne sais pas si toi tu l'as déjà lu, Robert, les personnes qui vivent de nuit seraient plus intelligentes. C'est quelque chose que j'ai vu souvent passer, ça. Il y a plusieurs ramifications, traits de caractère, génétique, environnemental qui se rallient à ça. Et cette semaine, j'ai lu que les personnes matinales, elles, auraient une espérance de vie plus élevée que les oiseaux de nuit. Donc, à chacun notre cycle et à chacun ses bienfaits, j'imagine. Donc, ça dépend, j'imagine, ce qu'on...
Est-ce que tu connais l'adage américain « Early birds get the worm hein? » c'est l'oiseau matinal qui est le premier, qui sert le premier avec les vers de terre.
Ben,
ça revient à ça. Hein?
Comme la phrase, là, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
C'est la même chose, mais il y a moins de vers de terre dedans.
Il y a un avenir, en tout cas. Phrase que je déplore un petit peu personnellement, mais bon, l'avenir appartient à celui qui veut bien avoir un avenir. Fait que c'est ça, on peut bien se lever à l'heure qu'on veut. Mais les personnes qui se lèvent plus tôt ont effectivement une plus longue durée de vie disponible à eux, du moins parce qu'ils souffrent, ont moins de chances de souffrir de diabète, de troubles neuronaux, de troubles neuronaux et psychologiques de toutes sortes, ce qui donne un taux de décès de 10 % de moins. C'est quand même une personne sur 10, c'est un taux qui...
Mais 10 % il meurt pareil, mais plus tard, c'est ce que tu dis.
Oui, okay. Mais quand tu prends un point de référence, il y a 10 % de moins des gens qui vont mourir, donc c'est-à-dire que c'est une différence qui est cliniquement significative. Entre autres parce que oui, leur horloge biologique interne concorde mieux avec l'environnement dans lequel on leur demande d'évoluer, on va se le dire. Là, la société d'aujourd'hui est beaucoup plus à même de répondre à des besoins pour des gens qui se lèvent tôt que ceux qui se lèvent tard, on va se le dire. Donc, ils sont moins stressés, justement, par rapport à ces habitudes de vie-là. Et parlant d'habitudes de vie, ces gens-là s'entraînent plus, dorment plus et ont moins tendance à consommer drogue et alcool. Parce que les traits de caractère, tantôt je t'ai parlé des gens qui veillaient plus tard ou qui vivaient la nuit. On appelle ça les night owls, d'ailleurs. Ça. Les personnes qui vivent la nuit ont des traits de caractère qu'on a remarqués qui étaient des traits impulsifs. Ce sont des gens qui sont extravagants, qui sont souvent en recherche de nouveautés et donc qui vont avoir tendance à être plus éveillés, innovateurs. De là, on a parlé d'intelligence un petit peu, mais également qui vont être beaucoup plus anxieux, vont être plus à même de vivre des troubles de l'humeur, dont l'anxiété et la dépression. Et ils vont consommer également plus de drogue et d'alcool. Donc, tu sais, ça fait sens. Et pour avoir travaillé longtemps en psychologie, je peux dire qu'effectivement, tout ça sont des traits interreliés qui fonctionnent.
Et ça revient à quelque chose d'essentiel aussi qu'on appelle le rythme circadien.
Effectivement.
C'est-à-dire qu'on est la façon normale de vivre, c'est de se lever avec le soleil puis se coucher avec le coucher du soleil. Hein?
Mm-hmm.
Mais ça fait longtemps qu'on ne fait plus ça, quoique certaines personnes peuvent le faire.
Mais moi, personnellement, je dirais que j'étais une personne qui vivait la nuit avant. Et je trouvais ça extrêmement difficile parce que c'était naturel. Mais moi, j'avais une pulsion, là, à 9-10 heures le soir, là, je pouvais... J'étudiais énormément à ce moment-là, je faisais un doctorat et j'étudiais tout le temps. Mais moi, contrairement à plusieurs, j'étais plus de type... oui, le matin, on a un cours, là, mais l'après-midi, ne demande-moi pas grand-chose. Et le soir, ça repartait. La machine repartait et je pouvais étudier jusqu'à des 3 heures du matin. Tu me diras, Emmanuel, était-ce parce que tu n'étais pas prête pour ton examen du lendemain? Je te dirais parfois oui, parfois non. Mais quand même, c'était ça pour moi. Et dans les pays du Sud où il fait très, très chaud, on va se le dire, oui, ça répond à la chaleur, là, mais il y a quand même cette idée-là où il y a une phase et ta mélatonine, qui est ton hormone qui t'aide à dormir, là, il y a un pic en fin de journée qui fait qu'on est fatigué naturellement vers 3-4 heures. Tout le monde est fatigué. Tout le monde va se prendre un petit café, manger une pomme pour se redonner un peu de sucre pour toffer jusqu'au soir. Là. C'est biologique. Ben moi, ça, c'était très ressenti, ça, vois-tu? Donc,
Il y a un autre aspect chez les noctambules aussi. C'est le fait que, toi qui as fait tant de psychologie, tu dois le savoir, quand les enfants, les jeunes enfants, ne veulent pas aller se coucher, c'est s'endormir, c'est synonyme de mort pour les enfants. C'est le symbole. Et je pense qu'il y a des jeunes enfants qui restent jeunes enfants longtemps en associant le fait de s'endormir avec une vie, donc le plaisir, qui s'assume, s'éteint pour un temps et on ne veut pas éteindre le plaisir, on veut le faire durer.
Effectivement, c'est extrêmement important et intéressant ce que tu dis, en fait, parce que c'est souvent cette idée-là, d'ailleurs, les terreurs nocturnes, et on a des enfants autour de nous. Présentement, moi, je peux dire qu'effectivement, la relation avec la nuit, chez certains, est extrêmement difficile parce qu'ils sont tellement dans le moment présent et n'ont aucune capacité de se projeter temporellement. T'sais, pour eux, une nuit, ça ne veut rien dire. Moi, un passe-partout, je pouvais peut-être comprendre ce que ça voulait dire. Là. Mais quand même, et moi, il y avait des journées où j'avais tellement passé une belle journée. Et ce blues-là, comme le blues du dimanche quand on recommence une semaine, on ne veut pas que lundi arrive. Moi, mon truc, des fois, là, c'était de ne pas aller me coucher. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Je ne voulais pas que ma journée finisse. Mais c'était complètement loupé. Là. On va se le dire que c'est pas de même que ça marche. Et tu sais, je vous parlais, oui, d'habitude de vie, de consommation reliée à des traits personnels ou des traits de caractère. Les personnes qui vont vivre la nuit vont avoir beaucoup plus de comportements antisociaux également. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup moins de gens qui vont vivre la nuit. Donc, clairement, tu veux un isolement social un peu plus grand, à moins que tu aies ton groupe d'appartenance qui vivent sur le même rythme que toi et qui a réussi à se trouver des emplois de nuit ou qui a réussi à le garder comme toi, ben des fois, c'est un petit peu difficile. Et on sait à quel point le lien d'appartenance et l'aspect relationnel est relié directement à la longévité et au bonheur. Tu l'as étudié. C'est comme créer des liens sociaux, être entouré et les voir. Puis la qualité, mais aussi la quantité. Là, à un moment donné, quand tu es trop de temps à ne pas voir quelqu'un, ça commence à avoir un impact sur ton bonheur.
Le problème, c'est qu'il ne faut pas que le désir d'avoir des relations avec les autres s'en aille du côté des stimulants. Si on a un rapport avec les autres pour être stimulé, ben c'est, on veille tard, mais inutilement, parce que c'est pas comme ça que
Non, pense. Effectivement, mais ceux qui vont dormir tard vont vivre moins de relations individuelles parce que moins de relations personnelles, vont voir moins de gens naturellement parce que dans nos sociétés...
Ou alors des relations plus superficielles.
Oui, parce que dans nos sociétés, les gens vont vivre beaucoup plus de jours. Donc, c'est ce qu'ils ont remarqué et on peut se questionner sur la validité de cette étude et je vous laisse sur ce gros chiffre de 433 268 participants. C'est ce que cette étude impliquait. Je trouve que c'est phénoménal. La chercheure en moi dit OK. Bien fait, bien joué. Laisser le confort, le gros confort, pour quelque chose qui nous appelle, quelque chose de beaucoup moins confortable nécessairement, de risqué, de différent, bien, ça demande du courage, mais ça demande aussi une grande intégrité, hein, d'être en cohérence avec soi-même. Et c'est ce qu'a fait notre prochaine invitée de cette semaine. En initiant le projet One Guy, One Goal, One Life, c'est Rick. Bienvenue à l'émission.
Merci. Ben surtout que ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Montréal, au Québec, donc je suis content du retour. Ouais.
Et dans le monde des médias, parce que c'est un monde que tu connais bien, tu as été concepteur en chef, producteur au contenu, tu as gravi les échelons d'un monde qui est difficile, dans lequel c'est difficile parfois de se faire un nom. Tu étais bien et tu as décidé de partir pour vivre sur un bateau. Ça fait 3 ans de ça.
Oui, mais en fait, c'est ça, c'est un monde, effectivement, particulier, disons-le. Hein? Et c'est quand même un monde assez particulier. Plus dans le paraître que dans l'être. Puis, j'ai décidé ça un bon matin. Ça, c'est quelque chose quand même qui me trottait de vouloir vivre autrement, simplement, librement. Et il y a un matin, en fait, il y a eu un événement très marquant en 2010 où ce que j'ai eu une fraude, j'ai vécu une fraude par mon planificateur financier et ami à l'époque en plus aussi sur 10 ans de 133 000 $. Fait que tu sais, tu te lèves un matin et tu te dis, j'ai perdu toutes mes économies, gagné à la sueur de mon front, comme on dit.
Effectivement.
Puis, ça fait un choc, ça saisit un peu.
Émotionnel, mais je veux dire relationnel également.
Puis, tu sais, comme aujourd'hui, tu sais, je peux dire, au-delà de l'argent, il y a aussi surtout la trahison aussi qui est dure, tu sais, parce que c'est une amie à l'époque pendant, tu sais, 10 ans, tu sais, très proche, tu sais. Fait que ça brasse, hein. Mettons qu'en 2010, ça a brassé ce matin-là quand je me suis réveillé. Et puis, 6 ans plus tard, je me suis retrouvé dans les Caraïbes, à Tortola, au British Virgin Islands, à signer, à acheter un bateau. Et à ce moment-là, elle était reconnue coupable par la justice et elle rentrait en prison. Et moi, elle perdait sa liberté et moi, je gagnais une liberté extra.
Que tu n'avais jamais connue. C'est fou. C'est complètement...
Je me disais, la vie. Tu sais comment c'est...
Quand la fiction dépasse la réalité.
En 2010, je t'aurais pas dit ça, là, de dire non, c'est non. Ça qui va arriver. T'sais, surtout que moi, j'avais pas de notion de bateau à l'époque. Je sais pas comment dire ça, mais c'est arrivé out of nowhere un peu.
Pourquoi? T'sais. Pourquoi un bateau?
Ouais, pourquoi? En fait, en 2014, je me rappelle... Mon frère a acheté un bateau, lui, et puis en Martinique. Puis j'ai dit, est-ce que tu veux que j'aille t'aider à aller le récupérer? Puis là, bon, il l'amenait Saint-Martin à ce moment-là, à l'époque. Il dit, ben oui, si tu veux, j'aimerais bien ça avoir de l'aide. OK, parfait. Je suis embarqué sur le bateau, puis ça a été instantané.
C'est comme un coup de foudre.
Je n'avais jamais fait, j'avais pas de notion, moi, de voile, rien, pas de cours, rien. Puis j'ai mis le pied sur le bateau, puis c'est fait. Voilà, c'est ça. Ben oui, c'est parfait, ça correspond à tout ce que j'aime. C'est la mer, bon, la chaleur, évidemment, le soleil, tout dépendant où tu vas, là, mais surtout ce sentiment-là de liberté. Moi, ça, c'est primordial, c'est vital pour moi, ça. Et le fait que, tu sais, justement, tu l'aimes pas le voisin, ben tu lèves l'angle, puis tu t'en vas ailleurs.
Tu vas par ailleurs.
Ça finit comme ça, tu sais, c'est aussi simple que ça. Fait que le bateau, c'est arrivé comme ça un peu finalement. Là,
ce que je trouve absolument fascinant et intéressant, en fait, c'est que c'est pas n'importe quel bateau, c'est un voilier. Robert, ici, tu es fanatique de voilier également.
Un bateau, automatiquement, c'est un voilier. Autrement, ça serait une espèce d'engin moteur.
Je suis d'accord avec Robert. Tout à fait.
Excusez la néophyte.
C'est vrai, un bateau.
Je ne vois pas pourquoi qu'on appellerait d'autres choses qu'un voilier un bateau.
Pourquoi spécifier? On n'a pas besoin de spécifier. C'est vrai. Le reste, ce n'est pas des bateaux. C'est d'autres choses.
Je peux-tu prendre juste une minute pour raconter une histoire absolument horrible?
Oui.
Tu parlais des gens qui changent de vie, puis c'est ce qu'il a fait, oui. C'est vrai. J'ai eu deux... Ça fait très longtemps, ça fait maintenant 30 ans. Deux amis qui étaient aussi dans le milieu. Un journaliste de presse écrite, mais un journaliste de radio à l'époque, qui rêvait de partir comme ça sur un voilier, laisser le métier parce que c'était du paraître, et t'as pas de l'être, etc. Ouais. Bon. Ils ont mis toutes leurs économies là-dedans. Ils ont acheté un bateau. Ils ont mis de l'argent liquide à bord du bateau, parce qu'il est dans, partout dans le monde, il n'y a pas nécessairement des cartes de crédit sur le bord des palmiers, là, selon les îles. On a fait une immense party. Ils sont partis vers le lac Champlain, ensuite, évidemment, la rivière Hudson vers New York. Un peu pacté. Hein? On ça fêtait pas mal. Mais ils sont partis là-dessus, ça s'est bien passé. Ils arrivent à New York, euphoriques d'avoir changé leur vie. Là, ils savent pas trop, ils sont pas trop renseignés où on peut accoster. Ils voient un quai qui est libre. Ah. Les gars s'accrochent là, d'autant plus qu'il y avait un bistrot, là, qui était un bar, qui était juste là. Ils attachent le bateau, ils s'en vont au bar, etc. Là. Quelques heures, ils sortent du bar, il y a un immense bateau qui est là. Je dis, où est-ce qu'il est le nôtre? Il n'y en a plus. Il a accosté, c'était la nuit. Il n'a jamais vu le voilier qui était là.
Oh non!
Il s'est ramassé au fond.
Ils l'ont coulé.
Un des deux gars, ça a pris des années de dépression. L'autre est encore interné.
Venu fou complètement. Tellement que ça les
absolument.
Mais parce que là, on calcule combien de temps du moment qu'ils sont partis à accoster à cet endroit-là.
Oh, ça a dû prendre 2 jours et demi, 3 jours, c'est ce que ça prend pour
mais
New York.
Mais c'est fou parce qu'on a parlé de choses, et non seulement ça, mais il y a des sentences qui sont tombées, toi, dans ce que tu as vécu le jour de ta fête. Donc, toi, il y avait beaucoup de belles choses qui te poussaient. Et moi, je crois beaucoup en la vie, vous le savez, les gars. En tout cas, j'en ai parlé déjà. Je pense que quand quelque chose est dû, ça arrive. Et toi, t'as beaucoup de poussées dans le dos. Là, j'ai l'impression que c'était une belle pelle d'en face qui est arrivée. Des fois, ça te ramène dans ton... Il faut écouter ça.
Je voulais la compter parce que tu disais tout à l'heure, changer de vie, c'est prendre une chance. C'est accepter de prendre une chance.
C'est effectivement vrai.
Heureusement, toi, t'as gagné. D'autres ont perdu.
Ça n'a pas tout le temps été facile, Cyric. Moi, je te suis dans tes capsules et ton projet.
Tu sais, je veux dire, même quand j'ai pris cette décision-là, moi, je me souviens que j'étais... j'acceptais le projet donc du gala artiste, donc tout ce qui est le tapis rouge et tout, que ça faisait 2-3 ans que je faisais. Puis là, bon, ben, comme n'importe quoi, c'était toujours encore la même chose. Là, tu sais, là, bon, on ressort la vieille recette, tout ça. Et moi, cette année de ça. Puis là, ça m'a comme fait non, je le fais plus. Ça me tente plus. Et on venait de commencer le processus. Puis j'ai dit, ben, savez-vous, je le ferai pas. OK, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu le feras pas? Mais ça ne peut pas être plus clair. Je m'en vais. Je ne le ferai pas.
Je ne serai pas du projet.
Non, finalement, je ne le ferai pas. Il va falloir que vous trouviez quelqu'un d'autre. Et puis, oh, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, j'ai aucune idée. Et tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis débarrassé de beaucoup de choses. Je suis parti avec un petit carry-on, une petite valise, un billet aller en Asie. Et j'avais aucune espèce d'idée de ce qui était pour arriver. Puis c'est ça, en même temps, qui me branchait. C'était de dire, on verra. On va voir ce que la vie va m'apporter. Tu sais. Mais une chose est sûre, ce que je sais, par exemple, c'est que je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire, par exemple.
Ben, absolument.
Je vais être libre. Je vais partir.
Liberté, défi aussi, parce que ça, il y a eu certains moments où les vagues étaient fortes et c'était pas facile d'être tout seul sur un bateau nuits de...
Non, c'est pas évident. Ça pousse beaucoup, ça nous challenge énormément.
Mais non seulement ça, là, t'es au Québec, t'es ici physiquement avec nous et t'es venu finaliser, terminer, fermer vraiment le livre, tourner la page, nomme tous les synonymes que tu veux, sur ta vie ici au Québec en vendant ton condo puis tout ce qui te restait. Tu as fait une vente de garage, tu as vendu tes fourchettes.
Oui.
C'est ça. Littéralement, là. Oui. N'importe quoi.
Oui.
Et tu disais avant de t'en venir, c'est sûr que tu avais un cœur gros de quitter le One Goal parce que ça fait 2 ans que c'est ton meilleur ami.
C'est drôle, hein? Ça me rendait nerveux de revenir.
Mais ce que tu as nommé...
Pas de ce que j'avais... J'avais pas... J'avais pas envie de revenir au Québec, mais bon, je devais revenir, parce que je me disais, bon, là, si je veux vraiment plus rien avoir puis me sentir libre, ben il faut que je revienne, il faut que je m'occupe du condo de venir le vendre. Mais j'étais nerveux surtout de rencontrer le monde ici, au Québec, ce rythme-là.
Ce que tu as nommé, c'est les gens qui sont dans leur tête et qui ne sont pas dans leur cœur.
Oui, exactement. Parce que je trouve tellement qu'il y a beaucoup de gens, puis tu sais, j'en rencontre là, beaucoup, là, surtout là, ici, là, au Québec, beaucoup de gens qui ne font pas, en fait, ce qu'ils aiment faire ou ce qu'ils voudraient faire.
Beaucoup de gens
dans
sur la
vie.
La Terre, je dirais.
Oui, en général. Donc, dans les îles, ils sont plus dans cet esprit-là.
Ils sont dans les îles maintenant.
Oui, ils sont plus dans le lâcher-prise beaucoup.
Mais toi aussi, tu as déjà été dans ta tête, je crois, avant de quitter, où vraiment c'était moins connecté avec le cœur. Maintenant que tu as connu les deux.
Je peux pas revenir.
C'est quoi la différence? Au quotidien, tangiblement, là, c'est quoi ce que ça fait vivre dans son cœur?
Ben c'est que là maintenant tout ce qui me fait vibrer ou ce que moi je me sens bien, je le fais peu importe ce que ça peut avoir comme impact, tu sais, vis-à-vis l'entourage, de ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont regarder, de dire ah, mais mon Dieu, mais ça n'a pas de sens. On peut pas faire ça, j'en ai entendu là, je sais, quand je suis parti là, dire mais comment tu vas faire pour vivre, puis là ci, puis là ça. Puis à un moment donné je disais aux gens, je disais, garde, ça, c'est tes peurs à toi. C'est pas les miennes. Là, tu transmets tes peurs à toi. Toi, t'as peur, toi, de manquer de l'argent. Mais je dis, moi, je sais que je suis assez intelligent que je vais toujours trouver une solution. Et comme de fait, depuis le temps, depuis que je suis parti 2015, j'ai jamais rien manqué. Là, tu sais, je veux dire, j'ai pas perdu de poids. J'ai mangé donc à ma faim, puis je suis correct. Là, tu sais, ça va bien. Fait que je me suis juste aperçu, j'ai voulu challenger la vie beaucoup, tu sais, de dire, mais c'est-tu vrai que ça, si on passe à l'action, si on pose des gestes, des actions vraiment précises, qui sont vraiment connectées à nous-mêmes,
à qui nous
est-ce
sommes,
que la vie nous apporte vraiment ce qu'on a de besoin, de dire, ah, OK, c'est ça que tu as décidé de faire, c'est ça qui te fait vibrer, moi, je vais t'amener, qu'est-ce que tu as de besoin en cours de route?
C'est ce qu'on appelle l'abandon, hein.
Ouais. Oui, un vrai lâcher-prise, là, je l'ai connu dans tous les sens du mot, là, vraiment. Parce que le bateau, ben, tu le sais, Robert,
t'as même plus pied sur terre.
C'est du lâcher-prise. Il y a une partie que tu contrôles, puis une partie que tu ne contrôles pas du tout. Là, puis qu'il ne faut pas que tu te bats contre ça, parce que c'est peine perdue. Là. Tu te bats contre Goliath. Là, tu ne gagneras pas. Là. C'est sûr que tu ne gagneras pas au change. Là,
mais tu nous apprends à écouter notre cœur. Tu nous apprends à moins écouter les autres aussi. Parce que des fois, on l'entend notre cœur, mais on aime mieux la voix de quelqu'un d'autre est plus forte. Donc ça, tu nous ramènes à ça. Et maintenant, tu en parles également dans une conférence que tu as nommée « Oser risquer, foncer
».
Que tu, dont tu parles de cette fougue-là et d'amener les gens à réfléchir à ce qui serait leur fougue personnelle, finalement, dans leur propre...
Tu sais, sans prétention, j'ai envie d'inspirer les gens à justement oser risquer,
c'est
foncer.
C'est pas prétentieux.
À dire « Faites ce que vous devez faire dans la vie, puis faites confiance. » Tu sais, à un moment donné, là... Faut juste faire confiance. C'est que les gens, ils veulent tout avoir les réponses d'avance. Ça se peut pas, ça.
Ben mais il faut d'abord se faire confiance.
Oui, c'est ça. Exactement, voilà. C'est
pour
ça.
Pour ceux qui veulent te suivre, page Facebook où tu es super actif, où tu interagis énormément, et le www.oneguyonegoaldonelife.com. Les ones sont des 1.
Exactement.
Et on peut aussi demander ta conférence sur ce site web-là et d'aller voir ce que tu fais. Merci infiniment de d'avoir pris
plaisir.
Un petit temps dans ton voyage ici pour venir nous rencontrer.
Merci infiniment, Cédric. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci, Robert.
Au plaisir.
Partner de Guinée.
Merci, les gars. Chaque semaine, chaque jour, nous propose une célébration particulière. L'hôtesse, je dirais, le jour est un autre, la journée est une hôtesse d'une fête ou d'une cause. Et cette semaine, ça ne fait pas exception. Les journées mondiales et internationales de cette semaine, du 19 au 25 juin, les voici. À commencer le 19 juin par la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Et parlant de sujets lourds, on a commencé l'émission avec une certaine lourdeur qui méritait d'être nommée, mais celle-ci est également une lourdeur qui mérite d'être nommée. Journée créée en 2015 par l'ONU, qui voulait absolument attirer l'attention et mettre la priorité sur la prévention de ce type de violence dans tous les types de conflits, sans viser un en particulier, en fait. On fait même référence à une tragédie pour l'humanité, pour refléter la généralisation de la situation actuelle, la reconnaissance des victimes de violences sexuelles étant l'objectif numéro un en cette journée de dénonciation, et on rappelle leur besoin de soutien, d'aide et d'assistance pour, entre autres, les débarrasser de leur honte. Sentiment qui n'a absolument pas sa place quand on subit de tels actes. Et le phénomène de la violence sexuelle en cas de conflit n'est pas récente. On repense d'ailleurs aux atrocités commises en Ouganda qui a littéralement mené à la révolte pour renverser le gouvernement qui était à la source de ces comportements inacceptables. L'utilisation du viol comme arme de guerre doit être reconnue comme crime grave. Et les violeurs doivent nécessairement faire face à la justice et répondre de leurs actes. Selon les représentants de l'ONU, la Journée internationale de l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit se veut un cri éthique en sollicitant directement la Cour pénale internationale dans la sensibilisation des dirigeants politiques, des casques bleus et des policiers en service dans les missions de paix de l'ONU pour faire de cette journée une source d'inspiration pour des normes internationales de reddition de comptes, rien de moins. 20 juin. Journée mondiale des réfugiés, qui auparavant était plutôt soulignée par les différents pays et nations séparément. L'ONU en a fait une journée internationale et a lancé en juin 2016 la pétition « Avec les réfugiés » pour envoyer un message clair au gouvernement afin que celui-ci coopère dans le mouvement de masse de ces individus qui, à chaque moment, fuient leur foyer et qui sont déracinés de leur famille pour survivre. C'est un appel à la solidarité pour améliorer la condition de vie de tout être humain qui cherche refuge. Cette pétition, qui a été instaurée en 2016, demande au gouvernement d'assurer que chaque enfant réfugié soit scolarisé, que chaque famille réfugiée puisse vivre en lieu sûr et que chaque réfugié puisse travailler ou acquérir de nouvelles compétences afin de contribuer à sa communauté. On profite également de cette journée du 20 juin pour rendre hommage au courage et à la persévérance de millions de réfugiés qui vivent un défi hors norme et d'une difficulté qui est indicible, on va se le dire. 21 juin, Journée internationale de la lenteur. En ce jour le plus long de l'année, non, c'est pas vrai, je ferai pas cette joke-là de parler 100 fois plus lentement, mais quand même, c'est le jour le plus long de l'année et c'est le temps de prendre son temps longtemps, c'est le cas de le dire, avec cette journée internationale d'origine québécoise d'ailleurs qui a été initiée en 2001 et qui fait ses pas lentement, mais sûrement à l'international, oui, parce qu'effectivement, sa portée est encore principalement ici au Québec. À cet effet, la Ville de Montréal organise un événement au Parc La Fontaine. Oui, c'est entre 10h et 21h qu'on peut y s'y rassembler. Robert, tu me regardes avec des yeux tout à fait conquis.
Parce que je ne suis pas surpris que ce soit le Québec qui a inventé ça, la journée de la lenteur, depuis le temps qu'on voudrait bien être indépendant puis qu'on était tellement lent qu'on aurait tenu le bateau. On est lent à ce point-là, regarde.
Je suis contente que t'en aies parlé. Donc, c'est au Parc La Fontaine de Montréal qu'on peut se rassembler entre 10h et 21h. C'est tout à fait gratuit, on n'a pas besoin de réserver. Et ça va avoir lieu beau temps.
Et prenez votre temps pour y aller.
Absolument. Une programmation d'activités qui inclut du yoga dynamique, le yoga du rire, dont on a déjà parlé ici à l'émission, des ateliers de slam. Tu connais le slam, Robert?
Oui, je suis vieux, mais pas idiot.
Ah! Ah, OK. Non, mais je suis contente qu'on en parle. D'accord. Massage suédois, sans oublier l'atelier.
Ça, j'aime mieux ça que le slam.
L'atelier, ne rien... J'adore les slams. Hein. J'adore les slams. Je trouve que c'est une façon intéressante de travailler les mots. Mais bon, ça doit être la chanteuse, la poète en moi. La poète en moi. Donc oui, sans oublier l'atelier « Ne rien faire ». Et pour le calendrier des activités, toutes les informations relatives à cette journée de la lenteur, vous pouvez vous rendre au www.journeedelalenteur.com. Et toutes ces activités-là sont absolument cohérentes avec une autre journée mondiale également célébrée le 21 juin et qui nous invite à rester dans notre zénitude, oui, soit la Journée mondiale du yoga, une initiative de l'ONU à l'égard du premier ministre indien Narendra Modi, que cette journée a été adoptée le 11 décembre 2014 afin de faire connaître les bienfaits du yoga. Et c'est d'ailleurs plus de 177 nations qui se sont associées à cette initiative. Et le premier ministre indien, M. Modi, a d'ailleurs montré l'exemple en nommant un ministre du yoga à l'occasion d'un remaniement du gouvernement indien afin de relancer cette discipline ancienne et hautement bénéfique pour le corps, l'âme et l'esprit. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un ministre du yoga en Inde. Savais-tu?
Non,
tu n'étais pas au courant.
Non.
Moi non plus.
Pas du tout.
Pas du tout, moi non plus. Et finalement, 23 juin, journée olympique mondiale, célébrée depuis 1948 par le mouvement olympique. Cette journée mondiale a été choisie en faisant référence au baron Pierre de Coubertin qui, en date du 23 juin 1894, en présence des délégués de 12 pays réunis à Paris, a décidé littéralement de faire revivre les Jeux olympiques. En 1948, seulement 9 comités s'étaient regroupés pour relancer cet événement, aujourd'hui à déploiement absolument gigantesque, on va se le dire. On veut que cette journée soit beaucoup plus qu'une simple manifestation sportive. C'est une journée pour promouvoir les valeurs olympiques sur les bases de 3 piliers: bouger, apprendre et découvrir, piliers qui se veulent le reflet des maximes latines Citius, Altius, Fortius, qui se traduisent par plus vite, plus haut, plus fort, que je n'étais absolument pas au courant. J'apprends tous les jours, que veux-tu, c'était les journées mondiales et internationales de la semaine du 19 au 25 juin. Et c'est avec un énorme bonheur, Robert, que j'aimerais que tu nous enseignes, que tu nous guides vers notre propre bonheur. As-tu des petits trucs cette semaine?
On va changer tes mots pour suggérer.
Ah, OK. Tu veux pas être mon gourou, parce que...
Le gourou et moi, non, mais non.
Ça marche moyen. Je peux pas l'entendre.
On parle de trucs de bonheur dans un cheminement où on essaie d'améliorer soi-même et la vie qui nous entoure.
Mais j'adore les petits exercices que
on parlait de violence plutôt dans l'émission. Ouais. Et beaucoup de violences viennent des différences dans la vie, des différences qui sont parfois elles-mêmes des violences.
Dans la
vie quotidienne, on vit tous des différences avec des gens, avec des systèmes, avec...
Des différences de pensée,
avec l'impondérable, etc. Et bien, à un moment donné, on identifie une de ces différences-là, puis on essaie de la comprendre. Au lieu de juste la subir, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui m'achale? C'est quoi le problème qui fait que j'aime pas ça quand il fait ça, quand ils font ça, quand ça arrive, etc. Pourquoi j'aime pas les orages? Pourquoi j'aime le soleil? Pourquoi j'aime pas TVA? Pourquoi j'aime mieux, bon, etc.
On peut.
Et d'identifier comme ça des différences, ça aide beaucoup à se situer, à relativiser ces différences-là, d'une part, donc à calmer les violences ou en tout cas les irritants que ça peut causer. Deuxième suggestion que j'aimerais faire.
Mon Dieu, j'aurais parlé de ça pendant 2 heures, je t'écoute.
Oui, ben, alors, allons à dire là-dessus, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je choisis de me pardonner cette semaine?
Hein? Ça, c'est dur. Ça, j'aimerais que tu élabores beaucoup sur les comment des aboutissements de la chose.
Tu veux que je témoigne personnellement ou que je théorise?
Non, sauf que je trouve je trouve ça beaucoup plus facile à dire qu'à faire, se pardonner.
Absolument.
En disant « pardonne-toi à toi-même, puis t'as le goût de forêt. » Ouais.
C'est-à-dire que ça n'empêche pas qu'il faut changer les choses en soi qui doivent être changées. Ça, c'est indéniable, n'est-ce pas? Mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des traits de caractère qu'on ne peut pas changer. Alors, au lieu de toujours se les reprocher à tout bout de champ, puis prendre ça comme un fardeau qu'on traîne dans la vie, on peut commencer à se les pardonner. Se les pardonner, ça veut dire quoi en termes pratiques? Ça veut dire les accepter,
bon,
tout simplement.
Bon.
Accepter nos propres différences par rapport à nous-mêmes. Quand on se regarde dans le miroir, on dit « Ouais, mais moi, ça se fait que j'ai l'oreille gauche si décollée. » À un moment donné, tu l'acceptes. Arrête de mettre un scotch tape dessus. Tu l'acceptes qu'elle soit décollée. Hein? Bon. C'est ça, accepter quelque chose. L'autre truc, c'est que je décris mon bonheur idéal. Tu sais, toi qui es idéaliste, à un moment donné...
Je suis une idéaliste,
à un moment donné,
absolument.
Tu l'écris, je sais que tu l'as dit dans d'autres émissions, de faire son journal et de dire ce qu'on voudrait qu'il arrive idéalement dans la vie. Et là, on compare avec ce qui arrive pour vrai.
De pas se gêner, parce que ce que tu nommes, c'est super important, parce que je parle souvent aussi dans d'autres émissions, quand j'ai une tribune, de notre cerveau reptilien qui sert à nous protéger, qui est responsable des réponses de fuite et de se battre ou de figer, selon. Là. Et c'est comme un système d'alarme intérieur, et souvent, l'inconnu et le demain est synonyme de danger, parce que notre cerveau, quand il ne connaît pas des informations, il va aller mettre des informations qu'il choisit, et souvent...
Il n'y a pas de mal à ça.
Il va préférer se protéger d'une éventuelle difficulté.
Ces fuites-là ne sont pas mal en soi, c'est pas d'être
peureux.
C'est pas
une fuite, ça. C'est pas...
Mais ça peut avoir l'air de ça, parfois. Pour ceux qui veulent se renseigner, L'éloge de la fuite d'Henri Laborit demeure un livre extrêmement important.
Donc, simplement que des fois, avoir un petit peu plus confiance, ou d'au moins revenir neutre, mais des fois, on peut mettre des belles choses aussi dans l'inconnu. C'est sûr.
Exactement.
Seulement.
Alors, je parlais d'identifier le bonheur idéal qu'on souhaite dans la vie.
Oui.
Et là, dans l'autre colonne à droite, là, avec un crayon d'une autre couleur, là, tu essaies de dire où est ton bonheur actuel. C'est quoi ton bonheur actuel? Puis là, tu regardes la distance entre l'idéal là, que tu as écrit en vert à côté, là, puis en bleu à droite, là, ce qui est la réalité. Là, tu dis, c'est quoi la distance? Est-ce que c'est une distance qui est comblable? Est-ce qu'ils peuvent se rejoindre? Si ça peut pas se rejoindre, jamais se rejoindre, c'est que ce dont tu rêves, là, c'est une utopie. C'est pas un objectif. Alors là, tu réduis un peu les critères. Ce sera tout. Allez en paix, cher Emmanuel.
Merci beaucoup, mon cher Monsieur Blondin.
Thank you.
Qu'est-ce qui t'a fait sourire cette semaine, Robert?
Ce qui me fait sourire actuellement, c'est le violoncelle qu'on entendait, ça c'est certain. Sourire, je ne sais pas.
C'était
pour
notre plaisir personnel, si on va aller l'écouter. Absolument. C'était qui jouait ce violoncelle?
Rostropovitch.
Mais je ne sais pas. C'est pas
Il y a cette semaine, ce qui m'a le plus... Sourire, ça serait un grand mot, mais qui m'a édifié. C'est l'organisation de SOS Méditerranée. SOS Méditerranée qui se préoccupent de sauver les personnes, qui secourent les personnes en Méditerranée, la plupart du temps des immigrés, des migrants qui sont pris sur des bateaux, des rafios. Le dernier, évidemment, c'est dans les nouvelles aujourd'hui, demain, ils sont en route vers l'Espagne, accompagnés par deux bateaux. Mais ils étaient 900 dans un rafio qui était en train de couler. Il y en est noyé 13, ils en ont sauvé un paquet sur le bateau de cette organisation qui s'appelle SOS Méditerranée. SOS Méditerranée, c'est quelqu'un, c'est un groupe de personnes qui a décidé un jour qu'ils ont refusé d'être des spectateurs indifférents ou attristés. Ils ont dit, il faut faire de quoi?
On a décidé qu'on n'allait pas être dans la non-action.
ils ont fait des levées de fonds qui continuent toujours en Europe, mais ça peut se faire, ça peut venir d'ailleurs aussi, pour acheter ce bateau qui s'appelle l'Aquarius, actuellement, qui transporte des gens. Alors, les Italiens qui ont un nouveau régime de droite n'ont pas voulu les accepter, mais ils ont fourni deux bateaux avec des pâtes dessus, comme par hasard, pour pouvoir les escorter, les aider en répartissant les personnes qui étaient trop nombreuses à bord de l'Aquarius. Et c'est l'Espagne qui a finalement accepté de les recevoir dans le port de Valence, parce que la France était trop occupée à d'autres choses. Alors, c'est ces gens qui se donnent entièrement, et avec beaucoup d'argent, à sauver les gens en Méditerranée, pour moi, voilà une organisation qui agit. Comme ils disent eux-mêmes, là, ils ne sont pas ni indifférents, ni attristés, là. Ils font quelque chose. Ça s'appelle SOS Méditerranée. Allez sur Internet, regardez ça un petit peu. Mm-hmm. Ils font des choses exceptionnelles. Et je ne peux pas ne pas voir dans l'Aquarius les problèmes d'il y a 50, 60 ans d'Exodus à l'époque qui était plein de Juifs et qu'aucun pays du monde voulait accepter et qui se promenait de port en port de façon... Ça existe encore. On s'émeut des Juifs parce que ça fait longtemps, puis les Juifs ont produit beaucoup de documentaires pour qu'on ne l'oublie pas. Mais il y a aussi tous ces Africains qui fuient et le malheur, et la pauvreté, et la violence. Et là-dessus, on les traite vraiment comme les derniers des humains. Et heureusement qu'il y a quelque chose comme SOS.
Qui répondent à l'appel, va le dire. Et qui,
fouiller un peu sur Internet, c'est très simple. SOS Méditerranée. Vous allez voir plein de témoignages vraiment intéressants.
Est-ce que tu sais si on peut faire partie de cette association-là, de ce groupe d'aide-là?
Absolument.
Au-delà de... Parce que j'imagine qu'on peut donner des fonds en argent, là, mais d'offrir notre humanité à ces gens-là.
Oui, c'est possible.
Génial. Donc, SOS Méditerranée.
SOS Méditerranée, partez avec ça.
Génial. Merci beaucoup, Robert. Cette semaine, j'ai lu que le cinéma était une activité qui était redevenue légale et accessible en Arabie Saoudite. Et c'est Vice Arabia qui rendait l'annonce publique après 35 ans, d'interdiction. L'Arabie Saoudite redonne le droit à ses citoyens d'aller passer une soirée devant un film avec un popcorn. C'est quand même magnifique. Avec l'inauguration d'un nouveau cinéma, la fermeture, et ça peut paraître banal, mais c'est... en tout cas, on comprend la teneur de cette interdiction-là. Là. La fermeture des cinémas au pays, elle avait été faite sous la pression des groupes religieux qui voulaient...
Ils ont ouvert les cinémas, mais la censure?
Actuellement, là, le film qui est là, c'est Black Panthers. Et c'est un film qui a été... Moi, je ne l'ai pas vu personnellement parce que je ne suis pas une grande cinéphile. Ça me prend du temps à être à jour dans les films. Moi, je suis une mélomane, hein, donc j'écoute beaucoup de... Et je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de musique et peu de films. Donc, tu pourras aller voir la... Mais sache que tous les billets de la première semaine ont été vendus en quelques minutes à peine, là. Parce que ces gens-là, ils n'avaient pas le droit d'avoir accès à du divertissement. Je veux dire, c'est comme... Ça n'a pas de bon sens, dans une certaine mesure, et au contenu, et ils traversaient...
Ça fait combien de temps que les femmes ont droit de conduire une voiture en Arabie Saoudite?
Combien, vas-y?
Deux semaines.
Ça a été signé il y a deux semaines? Bien, je me dis, on va assister à ça. Je suis contente d'être là pour y assister. Ça arrive et ça va arriver et c'est pour ça que je vais continuer à être idéaliste. Les choses changent peut-être pas aussi rapidement. Peut-être que c'est la journée de la lenteur à l'année longue dans certains pays, mais c'est un rythme qui enseigne, j'imagine. Et moi, je suis très, très contente de voir ça, mais du moins, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. C'est sûr que les 22 milliards de dollars que les Saoudiens vont dépenser dans des domaines de divertissement dans les pays avoisinants, je peux pas les passer sous silence. Là. C'est quelque chose qui se ramène au pays et qui n'est pas petit dans les intentions de réouvrir, mais quand même, c'est d'une simplicité éloquente. Et ben, c'est de rappeler aussi notre chance qu'on a d'avoir cette liberté-là de faire ce qu'on veut notre dimanche soir ou notre dimanche après-midi, selon quand on a des enfants, n'est-ce pas? Un ingénieur a trouvé une façon de créer des oasis en installant des glaciers en plein désert. C'est fou, hein? C'est fascinant, écoute bien.
Il étire là comment?
C'est une idée brillante qu'on doit à Sonam Wangchuk, qui est un ingénieur de Ladakh, qui est un village dans le sud de l'Himalaya. Et son village s'appuie en fait sur les fontes de glace pour avoir accès à de l'eau potable. Et c'est un village qui est souvent confronté en fait à la sécheresse à certains moments de l'année, dont le printemps. Et ils sont de plus en plus à la merci de la température et de Dame Nature pour pouvoir boire. Et Sonam a décidé de créer des glaciers en forme de pyramide à l'aide d'une pipeline. En français, ça se dit en français une pipeline? Moi, je dis un pipeline. Mais je me suis... Une pipeline, ça se dit. Un boyau qu'il va aller prendre des montagnes qu'il a installé jusque dans le milieu des terres touchées par la sécheresse. Et il fait ça, il fait nécessairement sortir ça, il les jette avec les fontes de glace. Ça s'en va dans un gros réservoir où on verse des gallons et des gallons d'eau dans ce réservoir-là. Et avec un système de jet et en contact avec l'air qui est à 0 degré, ça finit par geler en forme de pyramide. Ils ont comme mis une espèce de gicleur, finalement, un effet gicleur, là, qui crée la forme pyramide. Et comme la glace, elle est plus lente à fondre, bien, ce glacier artificiel-là a procuré plus de 1,5 million de litres d'eau aux habitants du village de Ladakh, soit du printemps à la fin juillet, dans les temps de grande sécheresse. Et d'ailleurs, cette personne-là est récipiendaire du prix Rolex en 2016, qui est donné par la compagnie Rolex à des personnes qu'elle juge avoir eu le courage et la conviction de faire face à des défis majeurs pour avoir des retombées bénéfiques avec un esprit d'entrepreneuriat. Sonam continue de changer le monde. D'ailleurs, il y a vu des investisseurs qui ont commencé à s'intéresser à ce qu'il a fait.
Cet aqueduc-là, il est très près finalement de l'Himalaya parce qu'il ne s'en va pas en Arabie Saoudite avec ça. C'est
trop loin. J'ai pas la durée. Non.
Parce que le village en question, il y a...
Ladakh, c'est dans le sud de l'Himalaya, là.
Ah oui, c'est ce que je
on
dis.
On n'est plus en Arabie. Oui.
Non, c'est quand même près. L'Himalaya est à côté, là.
Mais quand même. Non, et je n'ai pas la longueur de ce boyau, de ce tuyau.
Non, c'est un aqueduc.
Exactement. Mais tu sais, je n'ai pas la longueur, je ne sais pas, mais ce qu'il a fait, je sais qu'il n'y en est pas à un présentement. Là. Il y en a des centaines et des centaines de gicleurs, ça fonctionne comme un gicleur et de pyramides qui créent des oasis en plein désert. Je trouve ça absolument fascinant. Et là, présentement, il parle avec des gens qui ont les poches pleines, on va se le dire, qui croient en lui et qui veulent l'aider dans ses projets, non seulement avec l'eau, mais également avec les arbres. C'est à suivre. Moi, je salue cet homme-là, je le trouve brillant. Et voilà, je voulais vous parler de lui et de son initiative. Et Robert, c'est notre dernière émission d'Aime la vie pour la saison. On passe à l'été et en vacances. Et je te souhaite...
Bon été!
Un excellent... Je te souhaite un été rempli de soleil, de bonheur, de pina colada et d'écriture de livres.
Oui, d'accord. Merci. C'est ce que je vais faire.
Merci.
Je t'en souhaite d'autant.
Merci infiniment.